Vous vous souvenez, on a beaucoup parlé de SNC-Lavalin dans le monde médiatique au cours des derniers mois, en lien avec tout ce qui s'est passé sur la question de l'accord de réparation, le départ de Jody Wilson-Raybould, la situation auprès du premier ministre, l'entourage du premier ministre éclaboussé par cette histoire-là. Donc, la question, c'est, bon, une entreprise comme SNC-Lavalin opère au Québec, a commis certaines fautes. Est-ce qu'on devrait accorder un accord de réparation? Si je mets ça de côté quelques secondes, il y a eu des accusations envers un haut dirigeant, un ex-haut dirigeant, un ancien cadre de SNC-Lavalin, qui donc a subi un procès pour toutes sortes de chefs d'accusation et a été en fin de semaine reconnu coupable par un jury de différents chefs d'accusation, notamment corruption d'agents publics étrangers, de fraude, de possession de biens volés. Son nom, c'est Sami Bebaoui. Il est un ancien cadre de SNC-Lavalin qui aurait reçu 26 millions de son subalterne dans les comptes bancaires en lien avec des contrats en Libye. Il est donc reconnu coupable. Et pour en parler, je vais aller rejoindre la professeure adjointe à la section de droit civil à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa et spécialiste du droit pénal des entreprises. Jennifer Quaid est mon invitée. Professeur Quaid, bonjour.
Bonjour, M. Cholette.
On vous entendait sur le clavier derrière moi. Vous êtes à l'œuvre? On
oui,
vous entend.
Ben, écoutez, c'est tellement... en tout cas, il n'y a jamais des moments sans intérêt dans cette affaire-là.
Bon,
au moment où on pense que ça s'arrête, ça recommence.
Bon, dites-moi, professeur Quaid, l'homme, M. Bebaoui, a été reconnu coupable en fin de semaine par ses pairs de plusieurs chefs d'accusation sérieux, notamment corruption d'un agent public étranger. C'est en lien avec des pots de vin que l'homme, je comprends donc pour le compte de SNC-Lavalin, aurait soudoyé donc des agents publics étrangers pour des contrats, pour gagner des contrats. Est-ce que j'ai la bonne lecture de la situation?
Oui, grosso modo, c'est ça. C'est ça. L'infraction vise à sanctionner des tentatives ou en fait réellement des efforts de corruption en vue d'obtenir des avantages économiques, financiers, puis donc c'est des contrats généralement.
Mais lui, les avantages qu'il recevait, c'était pas à titre personnel, c'était des contrats pour l'entreprise.
Mais dans le contexte de corruption d'agents publics étrangers, cet avantage n'a pas besoin de venir directement à la personne qui accomplit l'acte. Ça peut également venir aider l'entreprise pour laquelle il travaille. Puis c'est souvent ça le cas, en fait. Rarement, les personnes vont pouvoir vraiment utiliser ce genre de stratagème de corruption uniquement à leur bénéfice personnel.
Ouais,
parce que dans une grande société, on peut difficilement détourner des fonds, du moins les fonds sont très importants, les montants sont très importants, sans que quelqu'un s'en aperçoive. Alors, généralement, il y a un bénéfice personnel en quelque part, une sorte de ristourne généralement, ou une sorte de une proportion qui nous est payée sous différentes formes. Et ensuite, il y a une partie qui bénéficie à l'entreprise, notamment le contrat même, pas la personne physique de M. Bebaoui qui va tirer un bénéfice direct du contrat.
Parce que l'argent qui a été versé illégalement à l'étranger, évidemment, ça ne pouvait pas être l'objet d'une seule ou l'œuvre d'une seule personne. Il y a quelqu'un d'autre dans l'entreprise qui a signé un chèque, qui a préparé les montants. Puis là, il y a un gros stratagème de détournement d'argent vers des paradis fiscaux, plusieurs paradis fiscaux, un peu pour brouiller la trace.
Oui, en fait, c'est ça un peu l'autre thématique qui n'a peut-être pas été assez discuté dans les arénas publiques là encore là, mais c'est pour réussir à exploiter un stratagème de corruption, ça prend un mécanisme par lequel on peut prendre les avantages et les bénéfices et les cacher. Ça marche pas de faire des paiements à des agents publics, ça marche pas de recevoir des ressources en contrepartie si on n'a pas des mécanismes pour faire ça. Et c'est ça la partie évitement fiscal. On peut aussi parler de véhicules d'optimisation fiscale, si on veut, là. Mais si on n'a pas moyen de cacher et d'encaisser l'argent, les gens vont pas tellement se livrer à ce genre d'activité-là. C'est veut pas, les gens sont motivés par généralement par l'appât du gain dans ces circonstances-là. Alors, la partie évitement fiscal, c'est un peu la partie qui maintenant est exposé au grand jour, que la corruption n'arrive pas comme ça par hasard, parce que les gens ont moyen d'exploiter la situation.
Alors, cet homme-là fait face à des peines d'emprisonnement sévères. Je lisais qu'un des chefs, ça pouvait monter jusqu'à 14 ans. On verra ce que ça donne. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un homme âgé maintenant, c'est un ancien dirigeant. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour SNC-Lavalin?
Bien... c'est sûr que on est dans le monde de la spéculation, là, parce que à la fois la couronne et l'équipe de la défense de SNC-Lavalin travaillent chacun leur côté depuis des années et des mois. Et eux, ils ont leurs propres preuves, leurs propres analyse de la situation. Et ceci dépasse bien sûr le cadre plus limité des circonstances de M. Bebaoui. Donc, a priori, là, c'est quand même plus complexe, comme vous avez fait allusion au fait que ça ne peut pas se faire par une personne tout seul, non. C'est certain. Mm-hmm. Même s'il n'y a pas un impact direct, on ne peut pas simplement prendre la condamnation et dire « voilà, on a terminé ». Parce que pour imputer une responsabilité criminelle à une entreprise, pour une infraction comme la fraude, la corruption, qui prend une intention, là, c'est pas juste une négligence, là, c'est une intention. Généralement, ça passe par les cadres supérieurs et on va dire soit le cadre lui-même a fait quelque chose qui constitue une infraction, soit il a demandé à d'autres à faire la même chose avec l'intention d'accomplir l'acte criminel, ou encore il n'a pas pris les mesures voulues pour éviter que ça se passe, alors qu'il savait qu'on était sur le point où on était en train de le faire.
D'accord.
Bon, laissons un peu le détail de côté, mais ce que ça veut dire, c'est que là, on a M. Bebaoui qui est, selon la nature de ses fonctions, certainement un cadre supérieur au sens du code criminel. Alors, lui, il a déjà fait des choses qui ne sont pas correctes. Ça ne veut pas dire que la couronne va s'arrêter là. Elle va dire, on va juste dire, M. Bebaoui a fait ça, parce que dans un deuxième procès, il va y avoir des témoins qui vont témoigner, il va y avoir des contre-interrogatoires, il va y avoir des documents, et peut-être qu'on n'aura pas exactement la copie conforme de ce qui s'est produit dans le cas de M. Bebaoui. Donc, on ne peut pas prendre pour acquis que la preuve sera identique ou qu'elle sera reçue de la même manière.
Bien sûr.
Ou qu'elle sera perçue de la même manière. Mais, au bout du compte, l'histoire que raconte la couronne depuis le début, là, qui a un stratagème qui impliquait la haute administration, que c'était très important, sur une période très importante. Cette histoire a été quand même validée par les verdicts de M. Bebaoui, parce que le jury a cru la couronne, a dit oui, il n'y a pas de doute raisonnable de ce qui s'est produit.
Oui, je comprends. Je comprends bien. Je veux aborder une question qui est plus touchée, là, plus sensible.
Okay.
Et moi, probablement que je suis plus extrémiste là, que la majorité, mais lorsque non, mais dans mes propos, lorsque j'entends, parce que le Bloc québécois disait ça, pour défendre l'accord de réparation, lorsque le Bloc, puis d'autres, disent « Oui, mais les travailleurs québécois, là, ils n'ont rien à faire là-dedans, puis ce sont des victimes beaucoup plus que des acteurs, là. Pourquoi pénaliser? Hein? » On entendait ça comme discours. Moi, je veux faire un pas derrière. Si, là, maintenant, c'est avéré, ce sont des faits avérés, il est reconnu coupable d'avoir tenté il a donné des bribes, là, des pots de vin, puis il a essayé d'acheter un agent public, puis bon, il était en possession de biens volés, puis il est accusé et reconnu coupable de fraude, etc. Mais tout ça a eu pour résultat que SNC-Lavalin a ramassé des contrats. On peut présumer que des contrats sous l'égide donc de corruption comme cela, bien, ce sont des contrats, puis l'argent qui a été versé à SNC-Lavalin, c'est de l'argent sale. Comment peut-on, après ça, dire « on a pris de l'argent sale » pour payer le salaire des Québécois qui ont travaillé pour SNC-Lavalin, puis qu'en même temps, ils n'ont rien à faire là-dedans. Comment on peut faire ça?
Ben, vous avancez une argumentation que je trouve est quand même devrait être dit plus souvent. C'est vrai qu'on a tendance, une fois que les choses vont mal, de dire « mais là, c'est parce que je n'étais pas au courant, je ne savais pas ». Oui, on peut dire que ces personnes-là n'étaient pas directement impliquées. Mais il est vrai également que quand les choses vont bien, on se plaint jamais des profits ni des recettes de cet argent-là. Et en quelque sorte, c'est un des avantages, mais aussi un des désavantages de de la structure de la société par action et de la structure d'une entreprise, c'est qu'on permet de consolider les biens, mais aussi les aspects moins bien ensemble. Et à ce moment-là, personne n'a vraiment les mains propres là-dedans. Et ça, je dis ça sous toute réserve parce que je veux pas dire que les personnes agissent avec des intentions criminelles et la vaste majorité ne le font pas, là. Mais veut pas, on a bénéficié quand même d'une entreprise qui a été mal gérée. Et la question qui se pose, à mon avis, au bout du compte, là, c'est pas est-ce que c'est des parties innocentes ou non. C'est, laissons de côté la qualification de bon ou mauvais, là. Parce que généralement, il y a beaucoup de gris dans les scénarios, là. Mmh,
oui.
C'est peut-être des gens qui, ouais, on était un peu moins attentifs, on a suivi des directives qui disaient, ben là, on questionne pas trop, ça. Puis on peut aller là-dedans et dire, bon, les gens ont plus ou moins le pouvoir de résister à des directives et tout ça, là. Mais au bout du compte, la question, c'est est-ce qu'il y a une raison d'intervenir et de régler différemment cette affaire-là parce qu'il va avoir des conséquences importantes sur le plan économique? Ça, c'est la question. C'est pas de dire parce qu'ils sont bons ou mauvais.
Ouais.
C'est vraiment de dire est-ce que nous sommes dans une situation où on a besoin d'intervenir? Mais la condition qui arrive avant d'avoir cette discussion-là, c'est de dire est-ce qu'on est en présence d'une entreprise qui est prête à jouer, c'est-à-dire qui est prête à changer, à admettre qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas et qui est prêt à avoir la discussion, de dire OK, ben peut-être c'est pas tout le monde qui était impliqué, peut-être, mais quand même, collectivement, l'entreprise va devoir répondre. Et ceci a des impacts sur l'ensemble des populations qui dépendent de lui, que ce soit des travailleurs, les communautés locales, tout ça, là. Alors, c'est ça la conversation, de dire ben, est-ce qu'on est en présence d'une compagnie qui veut changer, qui va dire OK, c'était pas correct par le passé, on change. Et ensuite, on va dire, OK, ben là, on a quelqu'un ou une entreprise qui dit, OK, on est prêt à parler, on est prêt à admettre qu'il y avait des choses qui ne marchaient pas. Là, on va dire, ben dans ce cas-là, il y a quand même des conséquences importantes si on l'envoie promener puis on dit, ben, on vous voit en procès. Peut-être il y a des raisons là de dire, hein, on regarde les impacts, il y a des raisons qui justifient avoir un moyen autre de résoudre la question. Mais je pense que toute cette idée de partie innocente, c'est pas productif. C'est, on est tous en fait, je veux dire, les entreprises, tout le monde bénéficie et souffre en même temps. Que quand les choses vont bien, puis quand les choses vont mal, ils vont mal. Mais dans ce genre de scénario, c'est quand même pas juste une personne. Là. On s'entend là, c'est pas juste une pomme. C'est pas les pommes pourrites. Là. C'est qu'on a eu un problème avec le panier. Il y a du moisi qui développe dans ce panier. Il est temps de nettoyer, peut-être concevoir le panier différemment pour qu'il y ait moins d'espace creuse où justement la moisi peut former. Alors, veut pas, je pense que c'est un effort collectif. Quand on veut qu'une entreprise change, il faut que tout le monde embarque et dise on va faire différemment, on va faire les choses différemment. Peut-être qu'on va pas aller dans certains endroits dans le monde où on peut pas, avec confiance, soumissionner pour des contrats sans devoir agir d'une manière qui est contraire à ce qu'on comprend et l'éthique maintenant en affaires.
Très bien. Très intéressant. Comme à l'habitude, merci beaucoup, professeur Quaid.
Ça m'a fait plaisir.
Okay.
Au revoir.
À la prochaine. Bye-bye.
Bye.
OK. Jennifer Quaid, intéressant, hein? Professeure adjointe à la section de droit civil à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa et spécialiste du droit pénal des entreprises.